Perspective de médiation, bonjour, c'est le podcast sur la médiation, la négociation et la gestion des conflits. C'est en coopération avec la revue Intermédiaire qui est représentée par Christelle Schirmer, qui est membre de la rédaction.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons vous proposer tout au long de l'année des podcasts, parfois avec des invités, parfois entre nous, mais toujours passionnants. Suivez-nous et soyez au rendez-vous.
Bonjour tout le monde, Perspective de médiation avec Christelle de la revue Intermédiaire et Pascal. Ça va Christelle?
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde, oui, ça va très bien.
Aujourd'hui, on est avec Stéphanie. Qu'est-ce qu'on va discuter avec Stéphanie?
Alors avec Stéphanie, nous allons parler de l'école Palo Alto. Nous allons enfin savoir plus c'est où, c'est quoi, comment ça fonctionne.
C'est pourquoi.
Voilà, donc Palo Alto et la systémie.
Et ça donne envie. À tout à l'heure.
Et ça donne envie.
Bonjour tout le monde. Salut Stéphanie. Salut Christelle.
Bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie.
Christelle.
Alors, c'est le podcast Perspective de médiation avec la revue Intermédiaire. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Stéphanie Jardin-Elhini. Salut.
Salut. Bonjour Pascal. Et à tous.
Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On va parler de Palo Alto. Palo Alto, donc, qui est justement, on va découvrir ce que c'est. En ce qui me concerne, j'ai souvent entendu parler de Palo Alto dans différentes formations. Je ne suis jamais allé en profondeur, mais j'ai toujours voulu en savoir plus parce que tout ce que j'ai vu comme ça, un tout petit peu à gauche et à droite, des petits bouts, ça m'a toujours fasciné. Je trouvais que ça vaudra le coup une fois de faire une formation ou en tout cas lire quelque chose. Et puis, je n'ai jamais vraiment fait. Donc, on est super content de t'avoir avec nous.
Merci. Oui, c'est très fascinant. En effet, je comprends.
Donc,
mystérieuse. Hein. Moi, c'est pareil que Pascal. On entend, ça ressurgit régulièrement, Palo Alto. Et puis, rien que la sonorité de ce nom, ça... C'est un peu exotique et voilà, la question, c'est quoi? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un concept? Et voilà, et ravie de pouvoir apprendre un peu plus aujourd'hui, Stéphanie.
Oui, bah alors Palo Alto, c'est une ville, comme tu dis Christelle, c'est une ville en Californie et c'est là qu'a été fondé le Mental Research Institute, en fait, où ils ont commencé à pratiquer des thérapies en fonction d'un modèle qu'ils ont étudié tout d'abord au sein des conférences Macy, qui étaient des conférences qui se donnaient aux États-Unis dans les années 50. Et ils ont Gregory Bateson, qui était un anthropologue, qui est un des fondateurs de l'approche Palo Alto, systémique Palo Alto, avait reçu donc un fonds pour pouvoir participer à ces conférences Macy et mettre en application.
Comment tu dis le nom des conférences, Macy?
Macy, M-A-C-Y.
Qui veut dire?
Je pense que c'est le nom, je ne sais pas, je ne suis pas très au fait sur les détails historiques liés à ça, mais c'était des conférences qui étaient sponsorisées, je ne sais pas par qui, il faudrait regarder, Pascal, mais c'était un fonds qui permettait à différents professionnels de différents bords d'étudier certains aspects, que ce soit sociaux, mathématiques, beaucoup de, je crois que c'était très vaste, donc en l'occurrence, il y a eu une volonté des conférences, mais ici, d'intégrer des anthropologues, des mathématiciens, des psychiatres, etc. Et puis, en parlant ensemble, en abordant ce qui était la psychanalyse, à l'époque, on traitait les patients que par la psychanalyse, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils avaient envie de développer un aspect plus pluridisciplinaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont donc fondé le Mental Research Institute qui se trouve à Palo Alto, où ils recevaient des patients. Ils ont particulièrement étudié la schizophrénie. Donc, ils recevaient les patients avec leur famille. Il y avait le thérapeute qui se mettait donc avec le patient et il y avait tout un groupe de psychiatres, de psychologues et de différentes provenance professionnelle qui analysait en fait les séances et c'était vraiment une approche très pluridisciplinaire pour comprendre comment le mécanisme fonctionne, donc le système. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de rétroaction, donc ils ont aussi fait ils ont aussi demandé à des professionnels de la cybernétique de se pencher sur la question, parce qu'ils se sont vraiment rendus compte que tout ce qu'on fait en fait a une répercussion qui revient en retour, et que c'est vraiment tout ce qui est axé sur la cybernétique, l'étude au niveau de l'armement, hein, peut être adapté et aussi transposé dans le milieu des relations humaines. Donc, c'est toute une série d'études. Je ne suis pas très calée là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est surtout l'approche concrète, pragmatique. Donc, on aura certainement l'occasion de développer ensemble qui m'a intéressée. Mais l'aspect historique, il suffit d'aller voir un petit peu sur Internet, conférence Macy,
Oui,
thérapie systémique.
tu avais raison, je suis vite allé voir, c'est la Macy, c'est le nom de la fondation qui avait organisé.
Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc ils ont mis en place un processus, une méthode de traitement des patients, et qui à l'époque était vraiment révolutionnaire, puisqu'elle allait à l'encontre de ce qui se faisait, à savoir pourquoi les gens sont tels qu'ils sont, mais dans un milieu fermé, à savoir eux-mêmes avec eux-mêmes. Donc, le pourquoi qu'on allait rechercher dans l'analyse de l'enfance et éventuellement de beaucoup d'autres, au niveau de beaucoup d'autres niveaux que je ne connais pas, puisque ce n'est pas mon métier. Ils ont regardé comment ce problème vit dans le milieu, dans le contexte dans lequel il vit, à savoir dans la famille, au niveau du travail, et quelles sont les façons de voir les choses, ou de réagir, ou qui font que ça entretient ce problème. Et du coup, on arrive sur une approche très systémique, à savoir que les actions de l'un ont une répercussion sur les actions de l'autre, et en fait, ça crée des mouvements qui sont réactionnels, comme ça,
C'est une
rétroactifs.
approche très, très holistique, en quelque sorte. Pas holistique à la personne, mais holistique au système.
Alors, on peut aller très loin au niveau du système. Il y a le système de la personne avec elle-même, il y a le système de la personne avec sa famille, il y a le système du couple, il y a le système professionnel, il y a le système de la société. Et puis, on peut aller loin, hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir les représentations plus spirituelles, etc., bien sûr. Oui. Il n'y a pas de finalité à ça, étant donné que la finalité, elle doit s'adapter à ce que la personne vit ou conçoit ou ne conçoit pas. C'est une approche vraiment centrée sur comment la personne voit le monde dans lequel elle évolue.
Donc
Alors,
ça,
bien sûr, ça dépend du problème et du souci pour lequel elle vient en thérapie ou qu'elle vient consulter. On ne va pas aborder la façon dont elle voit la vie si ce n'est pas en lien avec le problème qu'elle présente et pour lequel elle demande une assistance.
on cherche le souci plutôt dans le système que dans la psychologie de la personne.
On va regarder qu'est-ce que la personne concrètement se dit, pense ou fait et qui aggrave sa situation, oui, en fait, elle ne s'en sort plus. C'est comme si en fait on essaye, étant donné qu'elle est bloquée, on voit très bien en tant que systémicien, en donné par le dialogue, par nos questions, on voit à quel niveau le problème est entretenu. Et du coup, on travaille très pragmatiquement avec des tâches thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on demande à nos clients de travailler d'une séance à l'autre. Et on ne va pas passer par la conscience en leur disant, mais si vous faites ça, c'est parce que vous faites ça que c'est comme ça, donc changez. On va lui donner des choses à faire très concrètes qui vont lui permettre ou pas, mais généralement c'est assez efficace, qu'elle se rende compte par elle-même en disant, ah tiens, mais quand je fais ça comme ça donne pas le même résultat. Donc on passe vraiment, en thérapie systémique Palo Alto, on passe vraiment par l'expérience. Pour nous, l'expérience prévaut à la conscience de ce qu'on fait juste ou pas. Et une fois que la personne a fait l'expérience, l'a vécue dans son corps, on a vraiment l'a touchée, à ce moment-là, on lui demande pourquoi ça a été différent cette fois-ci. Et c'est elle-même qui va apporter une nouvelle conscience et une nouvelle façon de voir les choses en fonction de son vécu, qui est un vécu du coup réel.
Et donc qui induit une beaucoup plus grande acceptation de cette nouvelle conscience. Parce que
Déjà,
c'est pas que...
elle en a fait l'expérience, donc en fait, c'est comme si elle l'avait déjà maîtrisé. C'est comme si vous dites à quelqu'un de faire quelque chose, mais il se dit, mais ça, c'est pas possible, puisque moi, je pense tout le contraire. Il va vous dire, non, forcément, il y aura des résistances énormes. Si vous lui faites faire sans qu'il s'en rende compte et que tout d'un coup, il réalise qu'en faisant comme ça, c'est complètement différent, finalement, il a déjà fait le pas. Il n'y a plus qu'une conscience, c'est une concrétisation, une consolidation de son vécu et non pas d'un principe qui lui appartient pas.
Et donc, on parle d'une interaction ou d'une expérience toujours systémique vis-à-vis de quelqu'un
De
d'autre.
toute façon, c'est toujours systémique. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. La vie est systémique. Que ce soit de soi à soi. Que ce soit de soi aux autres, que ce soit de soi face à vis-à-vis du monde, vis-à-vis aux représentations, aux croyances, tout est un système. Et dans ce système, si ça bloque, ça va souvent très bien, hein, heureusement. Si ça bloque, eh bien, c'est que il y a quelque chose qui demande à être régulé, ou l'équilibre qui a été trouvé n'est plus un équilibre satisfaisant. Et à ce moment-là, bah, il faut faire redémarrer d'une autre façon. Et c'est vrai que, comme tu disais, Christelle, elle se sent, je ne sais pas exactement quel mot tu as utilisé, mais c'était,
Acceptation.
voilà, acceptation. Le fait de voir d'autres choses, en fait, ça ouvre des nouveaux possibles qui n'étaient pas en sa possibilité avant. Hein.
C'est étonnant qu'il a fallu attendre si longtemps pour conceptualiser ce déroulement ou cette façon de faire, parce que il me semble c'est quelque chose d'assez naturel.
Alors, oui et non. Bon, déjà, ça fait depuis les années 70, hein, alors, bien sûr, hein, comme tout courant, ça met du temps à s'installer, à être accepté, etc. Donc, la thérapie systémique prend de plus en plus d'essor, pas seulement ça s'appelle la thérapie systémique stratégique, la PALOA, celle que je pratique. Après, on a beaucoup, hein, il y a la narrative, il y a beaucoup de thérapies systémiques différentes. Mais ça, c'est vrai que ça commence, c'est en plein essor maintenant. Mais bon, c'est vrai que par rapport à la psychanalyse, elle est beaucoup plus jeune. Après, tu dis que c'est finalement très logique. Oui, c'est vrai, c'est très logique. Tant qu'on ne vient pas remettre en question quelque chose qui est pour toi de l'ordre de ta façon d'appréhender les choses dans la vie, là, ça devient pas du tout logique. Parce que ça te demande de faire quelque chose que tu ferais jamais naturellement, qu'on ne ferait pas, parce qu'on a tous sensation que pour sortir d'un problème, il faut faire ça. Et c'est bien pour ça que les gens le font. Ils ne le font pas parce qu'ils sont déraisonnables. C'est parce que réellement, ils pensent que c'est comme ça qu'on sort d'un problème, pour des raisons qui sont très valables. Et justement, la thérapie systémique, stratégique, vient couper ça. Et c'est très anti-naturel, justement. C'est qu'on doit aller à l'encontre de la nature de la personne qui, elle, pense que pour s'en sortir, il faut faire ça, sinon c'est fini. Donc, c'est vraiment d'abord rejoindre la personne où elle est. Donc, c'est une thérapie qui est aussi non normative, c'est-à-dire que pour le thérapeute systémique stratégique, il n'y a pas de normes, à part bien sûr... des normes très imposées par la loi par rapport à la sécurité, etc. Mais sinon, si les gens ont des comportements qu'on estime à risque, mais qui ne mettent pas en danger autrui, et voilà, si cette personne pratique ce comportement et ne souhaite pas le changer, le thérapeute systémique ne va même pas s'arrêter dessus. Donc, c'est vraiment ça aussi une approche qui peut créer des résistances parce que dans nos sociétés, est-ce qu'on est à même de pouvoir se dire que la personne est libre de faire comme elle l'entend si ça ne crée pas de problème, en fait. Alors ça, parfois, ça peut être un petit peu difficile d'aller jusque-là. Moi, c'est ce qui m'a plu le plus parce que je pense que l'humain va de toute façon être hors norme, à un moment donné ou à un autre, à un aspect ou à un autre, et qu'il a besoin que quelqu'un, s'il est dans la difficulté, puisse le rejoindre là où il est. Et c'est vraiment un des plus grands cas, celui qui, moi, me percute le plus, c'est cette nécessité d'aller rejoindre la personne là où elle se trouve. Et pas de se dire, elle devrait faire différemment, elle devrait pas avoir ce comportement, etc. C'est vraiment, en fait, s'intégrer à elle. Et puis, à partir de là, voir quel est l'élément qu'il faudrait bouger pour que ça redémarre et qu'elle puisse retrouver cette autonomie qu'elle a perdue.
Donc, si je comprends bien, ça nous demande un effort, ça nous fait sortir de notre zone de confort en tant que thérapeute parce que quelque part, nous acceptons de lâcher prise et d'abandonner le contrôle qu'on aime bien avoir sur les situations et sur les personnes, de savoir à la place d'elle, de lui indiquer, etc., mais de faire confiance à sa capacité de cheminer et de l'accompagner. Donc,
Exactement. Alors, l'intervenant systémique doit être savoir que la personne doit gérer par elle-même et en mesure de s'en sortir, mais il est très directif pendant le moment où il travaille dans le système, parce que le thérapeute devient un élément du système, forcément, parce que on ne peut pas être dans un système et ne pas avoir de répercussions sur le système. Donc, on assume cette répercussion. Du coup, on est très directif, mais c'est une thérapie brève, à savoir que nous, notre objectif, c'est de faire ce qu'il faut pour couper ce qui fait que le problème s'enlise et sortir le plus rapidement possible du système pour qu'il réapprenne à vivre sans nous et surtout qu'il gagne en autonomie.
Ça veut dire, parce que tu disais qu'on va rejoindre la personne là où elle est. Et moi, j'en ai déduit que du coup, on ne donne pas de conseils. Et là, tu dis qu'on est très directif.
Oui, alors on va la rejoindre là où elle est. Et une fois qu'on a fait ce lien avec cette personne, qu'elle sent la bienveillance de son thérapeute, etc., eh bien petit à petit, par des recadrages pendant l'entretien, par des questions qui sont généralement, qui se posent pas par hasard, on construit en fait une nouvelle façon d'appréhender sa situation qui va émerger par elle-même. Et on va lui demander de faire des choses entre les séances. Donc, on est très injonctif au niveau de ce qu'on va lui demander de faire, tout en lui disant pas pourquoi on le fait, pour qu'elle-même puisse s'approprier l'expérience et puis en faire ses déductions toute seule. Donc, on est en même temps très injonctif, mais en même temps, on sait très bien que ça ne sert à rien d'aller dire, mais c'est parce que vous faites ça que ça va pas. Donc, on prendra jamais cette position. On va faire émerger ça d'une façon différentes en passant par des degrés de compréhension qui sont pas aussi directs parce que ça créerait directement une résistance.
Comment tu appelles les personnes qui viennent consulter?
Client.
OK.
Personne.
Elles viennent avec quel type de questionnement?
Alors, c'est très vaste. On traite tout. On peut traiter les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, les problèmes liés à la trouble de régime alimentaire, troubles sexuels, problèmes familiaux. Franchement, tant qu'il y a un problème, on peut intervenir dans tout.
Et puis tu verras ça plus proche d'un accompagnement psychologique ou plus proche d'une médiation. Si on prend l'exemple d'un conflit, quelqu'un qui vient avec un conflit.
Ça dépend. De nouveau, c'est du sur-mesure. Donc, bon, déjà, il y a une chose que je n'ai pas dite et qui est très importante, c'est qu'en thérapie systémique, on n'a pas besoin, par exemple, on vient me dire j'ai un problème avec mon fils, etc. On va recevoir d'abord les parents Et si le fils n'est pas prêt à se mobiliser, parce que pour lui, il n'a pas de problème, je n'ai pas besoin que le fils vienne en thérapie pour pouvoir agir sur le système. Parce que le fait d'avoir un élément du système qui est prêt à se mobiliser et à changer fait que tout le système va se modifier. C'est comme, ça c'est un exemple très parlant qui est souvent repris pour la thérapie systémique, c'est la pyramide humaine. Si une des personnes change sa position, forcément toute la pyramide pour rester debout, elle va devoir se réajuster. C'est la même chose en thérapie systémique. C'est-à-dire que il nous faut juste une personne, mais une personne, pas n'importe laquelle, une personne qui est prête à encore se mobiliser pour faire les choses différemment que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Si on a ça, on va de l'avant. Si on n'a pas ça et qu'on voit que le système finalement, oui, il y a un problème, mais on n'a pas trop envie de changer les choses ou on a peut-être l'impression qu'on peut encore s'en sortir, ça ne sert à rien de travailler parce qu'on ne va pas pouvoir mobiliser comme on doit pour pouvoir vraiment créer un démarrage. Un redémarrage. Donc voilà, donc il nous faut un client, quel qu'il soit, du système. Et puis, je sais plus la question, parce que tu m'avais posé une question et du coup, ça m'a fait penser à ça, mais j'ai oublié la question, Pascal.
C'était si c'est quelqu'un qui vient par rapport à un conflit, est-ce que l'intervention est plus proche
Ah, exactement.
voilà, de la
Oui.
psychologie?
Alors, c'est vraiment sur mesure. Quand on étudie la thérapie systémique, on a un certain nombre de processus en fonction de situation. Mais je peux avoir le même problème où je vais traiter complètement différemment. Et pourtant, c'est le même problème de base. Et c'est parce que c'est vraiment, on doit analyser comment fonctionne le problème dans le contexte dans lequel il se manifeste. Et du coup, ça va peut-être amener des mouvements du thérapeute qui n'ont rien à voir d'une situation à l'autre. Donc, pour la médiation, c'est la même chose. Il y a des médiations où je ne fais que de la médiation. Et il y a des médiations où, au bout de 20 minutes, je sais que je ne vais pas pouvoir y arriver. Et là, très clairement, je dis à mes clients. Écoutez, je suis médiatrice, je suis aussi thérapeute systémique. Je pense que la thérapie systémique pourrait vous aider davantage. Ça veut dire que ben, ma posture va un petit peu changer. Est-ce que vous êtes d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont toujours été d'accord. Mais il
Ah
y a
oui, c'est bien. Parce que t'es expert, tu as plusieurs outils et puis tu proposes le meilleur outil. Je pense que c'est que bénéfique pour les parties. Hein.
Après, je peux utiliser en médiation des outils de la thérapie systémique, de l'approche systémique, sans le dire, parce que il y a des outils qui sont de l'ordre de la discussion, où je vais pas donner des choses à faire entre les séances, etc., ou qui travaillent comme un recadrage, en fait. Voilà, donc ça, oui. Ça, j'utilise en fait. Mais en fait, j'utilise dans ma vie tous les jours. En fait, moi, ça a été une révélation pour moi, la thérapie systémique, vraiment. Et au début, ça a été contre-intuitif à un point où, en fait, pour vous dire vrai, quand j'ai découvert, là, on m'a parlé la première fois de ça, on m'a donné des exemples, je me suis dit, mais c'est complètement débile, ce truc, ça ne peut pas tenir, c'est pas possible. Du coup, je suis allée faire le premier module de la formation. Bon, là, c'était pas mal. Et c'est au deuxième module où ça a été mais l'explosion révélatrice pour moi. Parce que ça m'a vraiment rejoint dans ce que je crois fondamentalement que l'être humain a besoin qu'on plonge pour l'atteindre. Et qu'on a besoin de gens qui sont capables de quitter ce qu'ils pensent être juste et qui font partie de leur réalité, et il faut surtout pas remettre ça en question, mais qui sont capables de quitter ça pour rejoindre les gens là où ils sont, dans des réalités qui sont très difficiles. Ouais. Notre humanité souffre beaucoup et il y a vraiment besoin d'accompagnement et de possibilités d'aller les rejoindre dans ces extrêmes, en fait. Donc, ça a rejoint vraiment quelque chose de très intérieur chez moi, mais j'ai mis du temps à comprendre le mécanisme parce qu'on va vraiment à l'encontre de l'intuition. Donc, parfois, on dit, mais ça, c'est pas possible, ça marche. Mais oui, ça marche, souvent, ça marche. Mais pour ça, il faut que les gens nous adhèrent, donc il faut être convaincant, il faut savoir. C'est pour ça qu'on appelle ça l'approche systémique stratégique, c'est que c'est très stratégique. mais pas stratégique pour gagner, stratégique pour aider.
Qu'est-ce qui a enclenché cette prise de conscience au deuxième module?
Pardon?
Qu'est-ce qui a enclenché cette prise de conscience chez toi au
C'était
deuxième
dans
module?
mon activité. Quand j'ai vu que on pouvait, en tant que thérapeute, rejoindre les gens dans des schémas de vie qui soient vraiment très difficiles et difficilement compréhensibles, je me suis dit, ça me parle. Ça, en fait, ça vient susciter cette fibre que j'ai en moi et qui vraiment me mobilise, quoi. Là, tu vois, Pascal, toi, tu sais que tu fais aussi de la justice restaurative. Pascal, hein, tu fais de la justice restaurative
Médiation pénale.
en pénal. Bah, voilà, ça aussi, c'est la médiation, là aussi, c'est vraiment aller là où c'est vraiment très, très nécessaire, en fait. Pas facile, mais nécessaire. Et puis, c'est comme ça, quoi. Et comment on fait pour redémarrer? Donc, c'est vraiment ça que j'ai vraiment aimé dans cette approche.
Ça me fait penser à l'île de Robinson vers Birkenbeel. Pascal, tu la connais peut-être, hein, vers Birkenbeel, c'était une Allemande qui a fait beaucoup de conférences sur le développement personnel, et elle était partie dans les années 70 aux États-Unis. Donc elle a ramené très tôt toutes ces idées-là, et elle a une très jolie image. Elle dit, l'être humain, il est seul sur son île comme Robinson, et elle dessine ça, donc la petite île avec le palmier, tu vois, et que chacun est seul sur son île, et que parfois on arrive à se rapprocher un petit peu pour voir comment il est l'autre sur son île. Et c'est vrai que finalement, chaque être humain, c'est un univers entier de vision, de pensée. Je me rends compte dans mes formations aussi de plus en plus. Et c'est tellement, tellement, oui, comme tu dis, contre-intuitif d'aller rejoindre l'autre dans des visions qui sont parfois au niveau valeur, au niveau éthique aussi, complètement éloigné des nôtres, hein? Et de faire ce pas et de pouvoir, oui, je ne vais pas dire comprendre, mais de pendant un tout petit moment regarder le monde par sa lucarne pour mieux comprendre comment il fonctionne. Mais c'est fascinant.
Oui,
C'est
c'est pas
fascinant de faire ça, hein? Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est explorer, c'est comme si
après,
partir sur.
exactement. Après, il peut y avoir des situations où les gens, où le thérapeute dit là, ça, je ne traite pas, parce que je ne peux pas avoir cette non-normativité, donc ça, je ne traite pas. Et c'est légitime. Hein?
C'est contraire aux propres valeurs, Pacte, c'est ça ce que tu dis?
Exactement. Si pour quelqu'un, il y a des situations où là, ce n'est pas possible, ben on réfère à quelqu'un d'autre.
Mais sachez-le, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Chris Foss, Ne coupez jamais la poire en deux. Hein, il était négociateur du FBI dans des prises
Je viens de l'acheter.
dans des prises d'otages, etc. Et lui, il parle donc, quand il parle de l'empathie, il dit, voilà, pour pouvoir négocier, pour pouvoir trouver les leviers d'agir, il faut être capable justement de rejoindre l'autre dans son univers, même si c'est très, très éloigné, mais moralement et éthiquement d'une autre. C'est un art, hein. C'est fascinant.
Est-ce que ça, cette posture-là, elle ressemble à la posture de l'impartialité, de la neutralité ou de la multipartialité en médiation? On peut dire ça?
Très forte en approche systémique parce que c'est basé là-dessus, donc peut-être plus proche qu'en médiation, mais oui, ça rejoint ça. Oui.
Est-ce qu'il y a aussi dans l'approche, est-ce qu'il y a un modèle de phase ou quelque chose, ou comment ça se passe en pratique? Est-ce que toi, tu as une feuille de route que tu suis ou c'est vraiment en interaction, c'est chaque fois différent?
Enfin, en fait, c'est bon, déjà repérer s'il y a un problème, pouvoir le nommer, voir qui est mobilisable par rapport à ce problème. Donc, investiguer tout le système, ne pas vraiment éviter de laisser un élément qui est important hors de notre analyse, parce que, par exemple, je sais pas, un ami ou une amie qui peut-être alimente le problème sans qu'on ait repéré que cette personne existe dans le système, donc vraiment investiguer. Et puis, après cela, une fois qu'on a repéré ça et qu'on sent l'adhésion de la personne donc on a un client, on a une cliente, on a quelqu'un qui est vraiment mobilisé, à ce moment-là, bien sûr qu'en fonction des troubles, on a des tâches, oui, on a un certain nombre de tâches qu'on peut aussi adapter. Voilà, c'est toujours, on peut toujours adapté à la situation particulière, mais bien sûr qu'on a quand même des guidelines, bien sûr, oui.
C'est quoi la plus grande similitude avec la médiation?
La volonté d'aider est de refluidifier quelque chose qui est dans le chaos. Dans la vie, on sait, ne serait-ce qu'en biologie, il y a l'homéostasie, donc le maintien des normes, et le système fait tout pour du reste de notre corps, hein, fait tout pour adapter celle de la température, ses réactions, etc. Et on est tous à cette image. Et quand il y a un problème, eh bien, il y a une rigidification qui fait que le processus ne peut plus se faire. Et à ce moment-là, autant en médiation qu'en thérapie systémique, eh bien, on vient essayer de refluidifier ce petit chaos qui empêche le système de se réguler par lui-même, en fait.
Alors, est-ce que tu penses que d'avoir des connaissances en approche systémique, c'est quelque chose qui peut aider les médiateurs? Est-ce que ça peut être un outil pour les médiateurs pour mieux ou autrement conduire des médiations?
Alors, moi, je peux parler que de moi, puisque je ne sais pas, d'autres médiateurs auront peut-être d'autres outils. Donc, je ne peux pas dire. En tout cas, moi, c'est plus précieux, c'est inouï pour moi. Ouais. Pour moi, mais parce que ça me correspond vraiment, ça a collé à ma vision des choses. Voilà. Maintenant, dire que tous les médiateurs devraient avoir ça, je trouverais ça très présomptueux. Ils ont peut-être d'autres choses qui leur permettent de fonctionner très bien. Donc, à chacun sa recette. En tout cas, pour moi, tous les jours, je me dis, mais comment je ferais si j'avais pas cet outil-là? Ouais. Ou c'est pas un outil, en fait. La thérapie systémique, l'approche systémique, pour moi, c'est une façon de vivre. C'est une nouvelle façon d'appréhender les choses, mais que ce soit dans la vie professionnelle, la vie privée, tous les jours, en fait. Donc, pour moi, c'est une révélation, mais on peut tous en avoir une autre. Et c'est ce qui fait la richesse de nos sociétés, c'est qu'il y a des complémentarités. Voilà. Mais pour moi, oui.
En médiation, il y a beaucoup de médiateurs et beaucoup dans des formations, surtout quand c'est peut-être dans des médiations plus business, orientées résultats, peut-être un peu moins, mais les autres, je crois que tout le monde dirait de soi-même qu'on a une approche systémique, mais en même temps, ça reste souvent un peu flou. C'est-à-dire, on pense ça à tous, peut-être on pose des questions systémiques, comment, que dirait l'autre dans cette situation-là. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus de cela? Ça m'a l'air quand même. Je me suis souvent posé la question. On appelle ça systémique, mais plus que ne pas oublier les autres qui sont aussi dans le système ou peut-être poser une question par rapport aux autres, tu dis c'est une posture. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ces deux éléments que je viens de dire?
Ben, quand tu fais ta formation en thérapie systémique, bon, moi j'ai travaillé sur moi du coup en même temps, et en fait ça vient, c'est comme si on t'était une pâte et on te reprend, on te remalaxe complètement et on fait une forme complètement différente que tu n'aurais jamais créée avant. Et du coup, ce mouvement de se réinventer entièrement réinvente en fait toute l'approche. Donc quelqu'un qui peut-être n'a pas fait cette formation, en tout cas pour moi c'est la formation, mais ça peut passer par d'autres biais, eh bien aura pas le réflexe d'aller au point de tout dissoudre pour reconstruire. Et c'est ce qu'on fait dans le processus. C'est-à-dire que par rapport au problème, on cherche à tout dissoudre pour reconstruire une nouvelle façon de voir les choses et d'appréhender une issue. Donc, c'est vraiment très profond. Très profond.
On peut utiliser le terme transformatif.
Oui. Je pense. Du reste, je me suis formée à la médiation transformative et c'est vrai que c'est ce qui m'avait attirée au début. C'était justement cette notion de savoir que les gens, ils ont les ressources en eux et que ce n'est pas à nous à savoir où ils veulent aller. C'est à nous à faire en sorte que ça se remobilise. Mais ce n'est pas à nous à dire le chemin. Les gens savent très bien. Donc,
Donc,
est-ce que l'école, je vais revenir sur Palo Alto, est-ce que cette école de Palo Alto, bon, j'ai bien compris que c'est la base, la systémie de cette pensée, mais quelles sont les autres directions peut-être ou découvertes ou je ne sais pas, qu'est-ce qui a émergé ensuite? Est-ce que c'est autre chose que la systémie Palo Alto quand on parle de Palo Salut.
Alto?
Non, quand c'est Palo Alto, c'est la systémie. Maintenant, il y a des adaptations de cela avec des processus différents qui peut être le processus narratif, où en fait on vient remettre une nouvelle narration du problème de façon à qu'on puisse l'extraire en fait de la réalité de la personne qui est complètement liée à cette narration-là. Il y a, et je connais pas bien, hein, c'est très succinct ce que je vous dis, mais il y a d'autres approches qui sont. Ben, il y a Moniel Caïm aussi qui a travaillé différemment la thérapie systémique. Il s'est beaucoup inspiré quand même la thérapie systémique stratégique. Mais de nouveau, les thérapeutes après s'approprient la systémique et l'adaptent en fonction de ce qui leur sied. Plus, donc c'est voilà, quelqu'un, le thérapeute stratégique ne va pas agir de la même façon que le thérapeute de l'approche narrative, par exemple. Ce sont deux approches différentes, mais qui, j'imagine, les deux partent du principe que tout est interactionnel et rétroactif. Et de nouveau, là, je suis même pas sûre. Ça, il faut que vous fassiez d'autres vidéos avec des gens qui font d'autres, qui pratiquent d'autres systémiques que la mienne, parce que je suis pas sûre de pas dire de bêtises, mais je pense que ils sont tous quand même liés à l'aspect interactionnel et rétroactif, ouais, j'imagine.
Rétroactif, ça veut dire quoi dans ce contexte?
Bah, que ce que tu dis a une répercussion dans ce que la personne va te répondre, et que de la façon dont tu le dis ou de la fa ou
Ah.
ce que tu véhicules là-dessus, là-dedans, a forcément une rétroaction sur ce qu'elle va te renvoyer à toi. Et comme
Ah,
ça.
d'accord. J'ai mal compris. Rétroactif dans le passé, mais en fait, c'est
Ah
rétroactif dans
non,
le futur.
rétroactif dans la rétroaction,
Dans la
quel que soit
réaction.
le temps, en fait, quelle que soit la réalité.
Avant, tu as utilisé le terme thérapie brève.
Oui.
Est-ce que ça se réfère au temps qu'on passe? Le temps que ça prend une thérapie, ou ça se réfère à quoi?
Alors, par principe, bon, déjà, il faut les éléments de base dont je vous ai parlé, hein, donc il y a un problème, qu'on ait quelqu'un qui veuille se mobiliser. Donc, après, on commence. Si au bout, moi, généralement, au bout de deux, trois séances, je sais si je vais pouvoir aider ou pas. Je vois. Et si je ne peux pas, j'arrête. Donc, le thérapeute systémique stratégique, il faut qu'il reste stratégique. S'il voit qu'il s'enlise et que ça ne va pas, il faut qu'il sorte. Et peut-être que le fait de sortir va relancer la situation en plus. Donc,
Faire bouger quelque chose.
exactement. Donc, voilà, c'est très. Alors, après, on peut avoir des thérapies qui sont des thérapies brèves à long terme, à savoir notamment dans le traitement des personnes qu'on dit borderline. On n'est pas pathologisant en thérapie systémique Palo Alto, mais quand il y a des situations qui nécessite un soutien à long terme, mais pas toutes les semaines, ça peut même être tous les 3 mois. On peut suivre quelqu'un sur des années, mais normalement, au bout de 7, 8 séances, c'est terminé.
D'accord.
En tout
Donc
cas, pour le cas, c'est bref, oui.
c'est bref comparé à la psychothérapie, par exemple, par rapport à
Ah
la médiation,
oui, c'est pas du tout la même approche.
OK.
Et la psychothérapie peut être très aidante, hein. Je pense que, de nouveau, c'est comme tout dans la médecine traditionnelle versus les médecines naturelles. Je pense qu'il faut apprendre la complémentarité. Il y a des situations qui s'adaptent à la psychanalyse, il y a des situations qui ont besoin d'autre chose. Et ça, il faut accepter qu'on va donner une partie de la réponse, mais que personne n'a, aucun métier n'a la totalité de la réponse. Et je pense que ça, c'est une humilité dont on a vraiment tous besoin. Et de savoir reconnaître quand là je peux faire, là je peux plus faire. C'est pas mon ressort.
Donc, qu'est-ce qui est encore important de partager avec les personnes qui nous écoutent, qui sont souvent des gens que, dans la gestion des conflits, prévention des conflits, médiateurs, médiatrices, avocats, avocates, qu'est-ce que tu as envie de partager?
Bah, ce serait de se dire que oui, il y a des comportements qui sont terribles, il y a des gens qui sont un peu comme dans une cour d'école, il y a... Mais de se dire, est-ce que je suis capable d'aller les rejoindre là et puis de vraiment les rejoindre sans chercher à les bouger. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Donc, se dire aussi que quand il y a une personne qui dysfonctionne dans une société, elle dysfonctionne pas par hasard par rapport à la société dans laquelle elle dysfonctionne. Il y a des raisons et essayer de chercher, en fait, de lui rendre la légitimité de son comportement. Après, parfois, ça doit rester comme ça, et puis il n'y a pas de solution, et puis libre aux gens de se dire, bon, ben, moi, ça ne me convient plus, et je coupe, ou voilà. Mais vraiment, essayer de se dire que les gens, ils sont généralement pas malhonnêtes, ils sont juste pris dans choses qui paient sens pour eux, et duquel ils ne peuvent pas se départir, parce que sinon ce serait comme se renier soi-même. Voir appréhender, en fait, approcher chaque problème comme ça. Bien sûr que ben, en médiation, on voit des choses, on se dit, bon, mais là, c'est vrai que s'il faisait ça, ce serait quand même... Ben non, s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'en est pas capable, ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est parce que là, il y a un besoin qui doit être assouvi, et puis on doit le rejoindre vraiment, même si... C'est l'empêcheur de tourner en rond, quoi. Ou de tourner tout court.
Quand tu dis rejoindre, c'est rejoindre dans le sens de la compréhension ou de l'acceptation ou de la...
Acceptation.
Ok.
Accepter.
C'est du non-jugement, en fait.
Voilà. Moi, je pense que si dans le monde on arrivait à arrêter de juger, on s'en sortirait très vite. Et le problème, c'est qu'on juge tous, hein. Moi aussi, je juge. Tout le monde juge. Bah, de se dire, OK, j'ai jugé, j'ai le droit, parce que en fonction de mon prisme, c'est vrai que c'est pas génial, mais mon prisme, il s'arrête à moi, et bah, essayons de sortir de là, quoi, pour rejoindre l'autre. Ça n'empêche pas qu'on a droit d'être tel qu'on est, et voilà, mais savoir, en fait, se lâcher pour rejoindre l'autre.
Nous utilisons trop d'adjectifs. Je réfléchis à ça en tant que linguiste. C'est les adjectifs qui font les juges. Enfin, souvent, c'est les adjectifs qui font les jugements.
Alors reprenons les noms.
Voilà, revenons au substantif et mettons un peu plus les adjectifs de côté.
Un bon conseil. Bien, qu'est-ce qu'on va encore voir, Christelle? Ce qu'on a fait le tour.
Oui, moi, je trouvais ça très, très intéressant et très éclairant. C'est vrai que ça nous a donné des informations sur cette école de Palo Alto et sur la systémie. Et ça donne envie voilà, de creuser, de prendre Google, systémie, Wikipédia, etc. et de chercher davantage.
Il y a
C'est
des ouvrages aussi, hein. Il y a des magnifiques ouvrages
oui.
de Vaslavik, de Nardone. Voilà, c'est vraiment, c'est très riche. Et moi, il y a un ouvrage que j'ai adoré, si je peux dire comme ça, qui m'a marqué, c'est Psychosolutions. Je l'ai trouvé vraiment très pratique, en fait. J'aime bien parce que la thérapie.
Psychosolutions de qui?
C'est Narbonne, je crois. Je vais contrôler. Peut-être Vaslavik aussi. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais regarder.
C'est bientôt Noël, hein. C'est des livres qu'on peut se
Ah.
lire pour Noël. On peut les commander.
Psychosolution, en tout cas, ça donne envie, oui.
Alors, oui, c'est de George Narden. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais celui-là, moi, je me rappelle, et souvent quand on me dit qu'est-ce que je pourrais lire, il est très pratique. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus littéraires, qui expliquent vraiment en profondeur le mouvement. Une logique de la communication est beaucoup plus complet, beaucoup plus, mais peut-être plus dur d'approche. La psychosolution pour quelqu'un qui cherche des outils, je trouve vraiment chouette. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Mais après, il y a beaucoup de littérature autour de la thérapie systémique et qui sont très valables. Et c'est vrai que ça vaut la peine, mais il faut. C'est comme tu disais, Christelle, ça semble logique en fait tout ce qu'on a dit. Mais quand ça vient s'appliquer à quelque chose qui relève de notre propre croyance, c'est colossal en fait. Et c'est là qu'il y a vraiment le shift qui peut être fait quand les personnes sont face à un souci. Et c'est pas anodin du tout. C'est en même temps très simple et en même temps extrêmement complexe. C'est comme, qu'est-ce que je vais faire aux gens qui viennent me consulter si on oublie un petit point qu'on n'a pas vu de l'analyse qui fait partie du système. On peut partir complètement à côté, c'est pas grave, hein. Tant qu'on se remet en question en tant que thérapeute et qu'on et que, voilà, si ça marche pas, c'est qu'on s'est trompé. Donc, déjà, le thérapeute systémique doit prendre la responsabilité des échecs
Ah.
et rendre la réussite à ses clients, mais l'échec, c'est lui qui le prend sur son dos.
C'est une grande différence avec la médiation.
Ouais, c'est
Parce qu'en
vrai.
médiation, on n'a pas d'obligation de résultat. Obligation.
Alors, nous, en tant que thérapeute systémique, si ça marche, c'est grâce au client. Si ça échoue, c'est de notre faute.
Donc, le client ne peut que gagner. Enfin,
Et
si ça marche pas, il gagne pas quand même.
puis le thérapeute aussi, parce que comme ça, il se remet un peu en question. Parfois, c'est nécessaire.
Il peut évoluer. Pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a des formations, il y a des, je sais pas, des
Oui, bien sûr.
labels pour faire la bonne formation, ou comment ça se
Moi,
passe?
je me suis formée à l'Institut Gregory Bateson, qui est à Lausanne, à Liège, à Paris. J'ai adoré ma formation là-bas, vraiment. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Parce que quand on est satisfait de là où on est, on ne change pas. Donc, je n'ai pas investigué les autres, mais je sais qu'il y a des centres de formation qui sont très valables.
Donc, l'Institut Gregory Bateson, c'est un peu officiel de Gregory lui-même. C'est lui qui a créé, ils
Non,
sont proches ou...
c'est l'institut qui a le droit de donner les formations reconnues Palo Alto, de Mental
OK.
Research Institute.
Ah, donc c'est une bonne adresse.
C'est une bonne adresse.
En plus, on a ça à Lausanne.
Oui.
Et à
Merci
Paris.
beaucoup, Stéphanie. Merci à vous deux. Vraiment, c'était un beau partage. J'étais très contente. Et puis, ben, une autre fois, avec plaisir.
Bonjour, c'est plaisir partagé.
Merci. Et merci à tous les auditeurs et auditrices.